Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les extraterriens et bienvenue pour cet épisode très particulier. Avec l'approche des Jeux Paralympiques de Paris 2024, j'avais très envie d'aller découvrir les sports qui vont nous faire vibrer cet été. Et pour moi, un des sports emblématiques des Jeux Paralympiques, c'est le cécifoot. Tu sais, le football pratiqué par des malvoyants ou des non-voyants avec une balle qui fait du bruit. On pense connaître, mais j'avais vraiment envie d'aller au cœur de toutes les spécificités comme les règles ou l'environnement, les clubs, les coupes. Et pour ça, du coup, j'ai décidé d'aller voir Viknesh, un ancien joueur de l'équipe de France. Viknesh va nous donner une véritable masterclass sur le sport, notamment car il est journaliste sportif et il a une histoire ultra touchante puisqu'il a perdu la vue à l'âge de 4 ans et donc il a des souvenirs de ce qu'il voyait avant quand il était petit. Mais vous allez le voir, Viknesh, il dégage une énergie de dingue, il a un parcours exceptionnel et vraiment, il se fixe aucune limite. Il va aussi nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a renié son handicap et quelques conseils qu'il peut nous donner à tous pour mieux accueillir des personnes dans notre entourage qui sont en situation de handicap. C'était vraiment un très bel épisode et j'espère qu'il vous plaira. D'ailleurs, si tu aimes bien les contenus motivants, pense à t'abonner à notre newsletter 1% Performance qui regroupe les conseils des 300 champions et championnes qu'on a interviewés. On la publie toutes les deux semaines et crois-moi, c'est vraiment un bijou. C'est la meilleure newsletter sur la performance que tu n'auras jamais lue. Tu peux aussi t'abonner sur notre compte Instagram pour voir les coulisses du podcast et les meilleurs extraits les plus inspirants tous les jours en vidéo. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais remercier Expertise France, qui est une filiale de l'Agence française du développement et qui a rendu cette interview possible. Cette interview a eu lieu dans le cadre des rendez-vous de l'expertise, qui ont pour but de comprendre comment le sport peut être un levier de développement social. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Mais sans plus attendre, on commence cette interview émouvante avec Viknesh qui va nous faire une masterclass sur le cécifoot. Bon épisode. Salut Viknesh.
Salut Bart.
Ça va bien ?
Ça va très bien et toi ?
Ouais, ça va, je suis très content d'être là. Un petit peu ému aussi parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette interview. Tu vois, tu m'as immergé dans un monde que je regrette de ne pas connaître assez. Tu vois, quel monde du handisport et du cécifoot en particulier. Donc j'étais très impatient de te rencontrer aujourd'hui. Voilà, donc merci d'être là.
Merci beaucoup à toi et le privilège, il est pour moi surtout.
Ah bah écoute, je sais pas, on va pas trop s'envoyer de fleurs. Pour donner un petit peu de contexte aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, on est dans le cadre effectivement d'une interview sur un partenariat avec Expertise France. On va développer effectivement leur rôle et un petit peu le cadre de cette journée. C'est une grosse journée de table ronde d'ailleurs où on parle effectivement des différents impacts sociétaux notamment du sport dans la société et tu étais intervenant aujourd'hui. Donc tu peux nous dire un peu de quoi tu as parlé tout à l'heure ?
Bah, tu as bien résumé parce qu'on avait moi j'étais dans la première table ronde avec d'autres personnes, c'était une table ronde incroyable. On a parlé de beaucoup de choses mais autour du développement, de tous les enjeux sociétaux en fait et ce qui peut se passer du coup bah après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 entre autres. Donc c'était très intéressant.
OK, donc un sujet hyper vague, enthousiasmant et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire et à dire, j'imagine.
Bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on avait tous plus ou moins des sujets bien spécifiques et ouais, qui ne sont pas forcément communs. Donc, du coup, on a tous parlé, mais sur plein de choses différentes. Du coup, c'est complémentaire.
Bon, bah, super. Je mettrai les liens pour tous les auditeurs et toutes les auditrices qui sont intéressés, qui veulent aller creuser. Moi, pour être transparent, je ne les ai pas encore vus, mais je vous fais confiance quand j'ai
vu. Il fallait bien préparer aussi. Hein.
Exact. En tout cas, je vous fais confiance pour avoir vraiment débattu de façon intelligente et d'avoir délivré beaucoup de valeur. Donc, j'ai hâte de regarder tout ça. On va en reparler un petit peu plus prochainement dans l'interview, mais avant ça, j'ai une question traditionnelle que j'ai posée à tous mes invités qui sont passés avant toi à ce micro, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, ça va être paradoxal, c'est la Coupe du Monde 2002, la finale.
Okay.
La Coupe du Monde de football, parce que j'étais en famille, absolument à ce moment-là, je ne connaissais pas trop le foot, je ne connaissais pas grand-chose déjà, et je vois la finale, et je me suis dit, mais c'est pas mal ce sport en fait. Et du coup, mon amour pour le foot est parti de là.
Ok, d'accord. Tu te souviens du match en particulier? Attends, c'était quoi la 2002? La France n'était pas là?
Non, c'était Brésil-Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, non, je n'ai pas de souvenir aujourd'hui. Mais sur le moment, c'est ce qui m'avait intéressé. Parce que je ne connaissais pas du tout. Et je ne connaissais pas trop le sport non plus, et le foot encore moins. Donc, de voir ça à la télé, je me suis dit, mais c'est intéressant. Et du coup, j'ai commencé à accrocher.
Quel âge tu avais à ce moment-là?
Moi, je suis né en septembre 95, donc j'avais 7 ans, même pas. Ouais, même pas 7 ans.
Ok. Alors, pour les auditeurs et les auditrices, tu as une petite particulière, c'est qu'à l'âge, il me semble que c'est l'âge de 4 ans.
Tout à fait.
Tu as commencé à perdre la vue.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Même moi, je ne pourrais pas te dire, parce que je ne suis pas au courant, et on n'a pas réussi à diagnostiquer ce que j'ai exactement, ni le nom de la maladie. On a eu des tentatives, des analyses, des expériences. Bon, on n'a pas trouvé ce que j'ai. Du coup, la seule chose que je puisse dire, c'est que je suis malvoyant. Je vois les objets, les silhouettes dans la lumière et je ne parviens pas à distinguer les détails. Par exemple, je peux voir une table avec des objets dessus, mais je ne pourrais pas dire ce qu'il y a comme objet dessus, par exemple.
D'accord.
Et dans la lumière aussi, du coup, je peux percevoir du coup, tout ce qu'il y a. Et quand il fait sombre, je ne perçois que la lumière. Du coup, je ne perçois pas tout ce qui est objet, silhouette, etc.
Est-ce que tu perçois un peu les couleurs?
Oui, ça parce qu'en fait, du coup, comme tu as dit, comme j'ai vu jusqu'à mes âges de 4 ans et 4 ans en poussière, on va dire, donc je me rappelle très bien des différentes couleurs. Et aujourd'hui, s'il y a des couleurs contrastées, par exemple, je dis ça au pif, hein, le jaune et le noir, ou le bleu et le vert, par exemple, des choses comme ça, j'arrive à voir. Après, je ne pourrais pas te dire exactement si c'est du bleu ou du violet et tout, parce que c'est assez proche.
D'accord.
Mais je perçois un peu des couleurs distinguées, bien contrastées.
Ok. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance avant que tu commences à perdre la vue?
Après, je n'ai pas des souvenirs bien précis, parce que j'ai des souvenirs généralistes, on va dire. Par exemple, je me rappelle de comment c'était devant chez nous. Je me rappelle de l'école primaire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me rappelle très bien de l'école primaire. Je me rappelle des couleurs, des objets, plein de choses comme ça, de la télé. Du coup, quand j'ai vu la télé, j'étais encore malvoyant à ce moment-là, du coup, j'avais perdu la vue pour la finale, par exemple. Mais je voyais des gens qui couraient un peu, je ne voyais pas trop la balle, hein. Mais je voyais les gens qui couraient, l'ambiance, etc. Donc en fait, je voyais beaucoup de choses à ce moment-là parce que j'étais voyant, mais ce qui me reste en fait, ça m'aide même aujourd'hui au quotidien. Parce
Bien
que moi, quand tu me parles d'une maison, je m'imaginais une maison. Bon, peut-être pas forcément la maison dont tu me parles, tu habites dans un château, là, je ne suis pas forcément au courant,
ça,
je ne peux pas encore imaginer ça précisément. Mais si tu me parles d'une voiture rouge, je peux imaginer une voiture rouge parce que j'ai déjà vu. Donc ouais, ça m'aide encore au quotidien.
D'accord, ok, très clair. Merci beaucoup de nous partager ça, parce que c'est assez intime et très personnel, j'imagine.
Oui, mais bon, après, il faut partager, il faut expliquer, il faut aussi, du coup, faire comprendre aux gens aussi, du coup, comment nous on vit, comment nous on perçoit les choses. Même si on est malvoyant, on perçoit des choses quand même.
Bien sûr. Tout à l'heure, je t'ai vu avec ton téléphone. Tu écoutes tout avec ton téléphone, tes messages, les articles que tu lis, et tu utilises toute la fonctionnalité audio, c'est ça?
Moi, comme je dis souvent, moi, le téléphone, vous... Quand vous êtes valide, vous voyez le téléphone. Moi, j'écoute le téléphone. Mais en fait, j'écoute ce que vous voyez. C'est juste ça qui change en vrai. Mais du coup, oui, moi, j'ai un lecteur d'écran sur mon téléphone. Et il y a ça maintenant sur tous les téléphones, plus ou moins, on va dire tous les smartphones. Ouais, c'est automatique, c'est pas un téléphone spécial, etc. Il faut juste activer, c'est une synthèse vocale. Et du coup, ça nous lit tout ce qu'il y a à l'écran, toutes les différentes manipulations que nous, on fait. C'est dit de manière vocale.
Ok. C'est exceptionnel, toi, tu as dû voir beaucoup d'avancées ces 10 dernières années, j'imagine.
Ah mais carrément, carrément. Et aujourd'hui, c'est pas fini. Avec l'intelligence artificielle, si c'est utilisé à bon escient, bien évidemment, ça peut nous rendre encore plus autonomes, plus indépendants et vivre, comme je dis, avec un grand V. On pourrait faire beaucoup de choses. Mais ouais, par rapport à quand j'étais au collège et maintenant, c'est le jour et la nuit déjà.
Tu te souviens Enfin, tu pourrais nous préciser peut-être des choses que tu pouvais pas faire avant, que tu peux faire maintenant, et peut-être des choses que tu pourras faire plus tard?
Déjà, aujourd'hui, une photo, par exemple, moi, que l'intelligence artificielle et quelques applications, je peux décrypter ce qu'il y a sur la photo. Peut-être pas en détail exactement, mais j'ai une grosse idée de ce qui se passe sur la photo. J'ai des descriptions. Admettons, on m'envoie une feuille. Tu me passes une feuille parce que tu me fais lire un truc. Moi, je récupère la feuille. Je peux prendre une photo. Et du coup, je pourrais savoir ce qu'il y a écrit sur la feuille. Donc, je peux scanner la feuille aussi. Par exemple, d'autres choses. Même pour mes déplacements. Bon, ce n'est pas encore le summum non plus. Mais je peux me déplacer aujourd'hui avec différentes applications qui existent plus ou moins bien, on va dire. Mais ça pourrait être meilleur. Pour me rendre d'un point A, d'un point B. Bon, après, il faut y arriver au point B. Mais j'ai des applications qui me permettent de me déplacer. Plus ou moins, en tout cas, pour savoir la direction. Bon, après, je me prends toujours tout ce qui est terrasse, poteau, machin, tout ça. Je me prends toujours ça. Mais bon, c'est la vie, surtout à Paris. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de choses que je ne pouvais pas faire avant que je fais aujourd'hui. Et après, même s'il y a des choses que l'on ne peut pas faire, comme je dis souvent, on peut faire quelque chose et chacun est propre de son destin. C'est le système D. Du coup, en fait, même si moi je suis malvoyant, je vois d'une manière particulière, on peut voir d'autres personnes en situation de handicap visuel aussi. Par exemple, un truc tout bête, admettons pour la machine à laver, par exemple, je dis ça comme ça, ou d'autres machines, on va dire, électroménagers, on a tous des techniques différentes pour rendre la chose accessible. On a tous des techniques différentes. C'est-à-dire, ça peut être des techniques mentales ou des techniques, on va dire, en relief, ou les deux, enfin, peu importe. Chacun a ses méthodes pour se rendre la vie plus ou moins accessible, en tout cas, à sa manière.
Bien sûr, ok. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on... Je pense que beaucoup de valides oublient par moment l'intérêt des nouvelles technologies, tu vois, pour toutes les personnes en situation de handicap. Et j'imagine que, tu vois, il y a effectivement les handicaps autour de la vue, mais ça peut être aussi autour de l'ouïe, autour de la parole, peut-être autour du toucher. Enfin, il en existe beaucoup. Oui, quoi.
Énormément. Tout ce qui est psychique aujourd'hui, on en met énormément en avant. Donc, tout ce qui est autisme. Donc, il y a énormément de handicaps.
Ah ouais, bien sûr. Comme toi, tu n'avais pas nécessairement la vue, à quel moment tu as pu commencer à pratiquer le sport ?
Bah, au primaire, en fait. En primaire. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai perdu la vue, j'ai changé d'établissement scolaire. Je suis parti dans une école avec une CLIS, comme on appelle ça à l'époque. En gros, c'était une classe dans une école ordinaire, mais que pour les déficients visuels. C'était la seule du département du 95. Elle était à Sarcelles. Et elle y est toujours, mais avec une autre technique maintenant. D'accord. Mais elle était là-bas. Et du coup, j'étais avec d'autres jeunes en situation de handicap visuel. Mais du coup, pendant la récré, pendant la cantine, et même certaines matières, on était avec les autres. D'accord. Dans des classes ordinaires. Et du coup, à ce moment-là, en fait, moi, j'étais fan de foot. Du coup, bah, grâce à la fameuse finale de la Coupe du Monde 2002. Donc bah, là, moi, j'ai intégré l'école. C'était en 2001, je crois, ou en 2000, je ne sais plus. Et du coup, bah, en fait, quand j'ai découvert, en CE2, je pense, ou je ne sais plus exactement j'étais en quelle classe, bah, en fait, on voulait jouer au foot. Et là, du coup, moi, je ne connaissais pas le CC-Foot. Hein. J'étais à des années-lumière de connaître ça. Et les autres non plus, du coup. Mes camarades, mes maîtresses, personne ne connaissait. Bah, du coup, nous, on faisait quoi ? On avait un terrain. Bon, il ne ressemblait pas du tout à un terrain de foot, déjà. Mais bon, c'est un détail. On mettait des manteaux pour faire les buts, comme beaucoup, hein, j'imagine. Et du coup, en fait, on faisait... Parce qu'en fait, on avait des balles plastiques. Mais parce qu'il ne faut pas se faire mal non plus, à l'époque. Mmh. Et du coup, on se disait, mais comment on peut faire ça ? Parce que c'est compliqué. Et du coup, bah, système D, encore une fois, on prenait des sacs plastique. Bon, maintenant, c'est pas bien parce que l'écologie maintenant. Mais à l'époque, on n'avait pas trop le choix. Et on mettait les sacs plastiques autour de la balle.
D'accord, ok.
Et du coup, en fait, la technique, c'était quoi ? C'est que quand la balle, elle roule au sol, on l'entend. Et quand elle est en l'air, on l'entend aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'on réussissait à jouer au foot, en fait. Okay. Et du coup, bah, chaque fois qu'on avait une pause à la récré, on se rendait dans la cour. Et du coup, ce qui était bien, c'est qu'en fait, chaque fois, on devait faire des courses quand même parce qu'il faut avoir des sacs. Parce que les sacs n'étaient pas forcément très, très résistants. Ils partaient très, très vite. Donc, on avait beaucoup de sacs bah, pour faire au moins une journée de foot à chaque récré, à chaque pause. On devait avoir plusieurs sacs parce qu'on était un peu comme des brutes quand on tirait. Donc, ça se déchirait. Mais voilà, c'est la technique. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer au foot, en fait.
Ok. Du coup, là, ouais, t'as 5-6 ans, quoi, à ce moment-là.
C'est ça.
Incroyable. C'est une technique qui est toujours utilisée dans les écoles.
Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas. Parce que maintenant, ils connaissent un peu le CC-Foot, donc ça commence à être un peu plus en plus connu. Donc je pense qu'ils ont plus ou moins des balles, ça coûte un peu cher. Mais tout le monde peut se procurer une balle de CC-Foot en commandant sur Internet ou dans les magasins, etc. Enfin, il y a des possibilités. Après, est-ce que tout le monde le fait ? Ça, je pense pas non plus, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais après, j'imagine que tout le monde a sa technique. Nous, on l'a fait comme ça. Mais d'autres doivent avoir d'autres techniques, j'imagine. Je pense aussi, parce que nous, on n'est pas des scientifiques non plus. Hein. On a une idée, parce que c'est comme ça qu'on l'a trouvée.
Ok.
Mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
Est-ce que, je sais pas, tu te mets à rêver de d'équipe de France, de grandes victoires, de tournois. Est-ce que c'est quelque chose qui te parlait à l'époque?
Bah à l'époque, moi, je voulais être footballeur. Comme 99% des garçons, j'imagine.
Beaucoup.
Donc,
ouais.
On devait être tous footballeurs avant d'avoir la fameuse blessure au genou. Mais je me suis rendu compte que c'était pas possible. Bah, parce que j'étais malvoyant déjà. Donc là, je me dis, il y a un problème. Et ça, j'ai appris ça. Enfin, je me suis dit ça fin primaire. Parce qu'au départ, moi, je voyais les joueurs qu'à l'époque qui étaient sur le terrain. Bah, moi, j'étais fan d'Anelka, Pauleta, parce que le PSG, j'aime bien. Trezeguet. Donc, du coup, c'est mon côté attaquant. Même si aujourd'hui, je suis défenseur. Voilà, la logique. Mais du coup, j'étais fan des attaquants. Donc, je voulais faire comme eux. J'avais pas forcément de rêve de gagner la Coupe du Monde ou l'Euro ou la Ligue des Champions, etc. Moi, je sais pas, c'est les joueurs que j'aimais et je voulais jouer comme eux bah, dans un grand club, faire un peu leur carrière, on va dire. Parce que bah, ça faisait rêver de voir les gars qui jouaient, je sais pas, à Chelsea, au PSG, dans des clubs comme ça, c'était pas donné. Mais forcément, ils étaient performants en plus. Donc, moi, je voulais être sur le terrain et être performant avant de m'en rendre compte que c'était pas possible.
Ok. Qu'est-ce que ça te fait ressentir de te dire que c'est pas possible ?
Bah, tu sens que t'es triste quand même. Parce que t'as découvert ce sport. Toi, tu le pratiques avec une manière un peu particulière. T'essaies de te donner les moyens, mine de rien. Déjà à l'époque, j'essayais de me surpasser pour faire ce que j'avais envie de faire. Même si je n'acceptais pas forcément mon handicap encore à ce moment-là. Du coup, j'essayais de trouver des techniques. Et là, je me dis, bon, tu peux pas être footballeur. Bah, après, du coup, t'es triste, t'es déçu pendant quelques temps. Et après, quelques années après, ou même quelques mois après, t'essaies de trouver une autre alternative. Toujours dans le foot, toujours autour de ce sport-là, parce que t'aimes ce sport-là, t'as envie de parler de ce sport-là. Et c'est ça qui te fait vivre et qui te fait vibrer. Et du coup, au collège, je me suis dit, bah, je vais être journaliste de foot.
Ok.
Transition, toujours.
Excuse-moi, t'as dit quelque chose qui m'a surpris. Tu dis je n'acceptais pas mon handicap encore. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas accepter son handicap ?
Pour moi, ça voulait dire faire les choses comme tout le monde. Donc même les choses que je ne pouvais pas faire.
Okay.
Faire comme les autres. Parce que en fait, moi je comprenais pas pourquoi je pouvais pas en fait. Moi je voulais tout faire comme les autres. Alors qu'en fond, tu peux pas parce que tu es en situation de handicap visuel. Donc il y a des choses automatiquement qui ne sont pas possibles. Mais moi dans ma tête, je voulais tout faire comme tout le monde. J'avais pas de limite. Du coup, même au départ, quand il fallait apprendre le braille, moi je voulais pas, parce que je voyais que tout le monde apprenait pas le braille. Donc, du coup, après être dans une classe un peu spécialisée, ça m'a un peu permis de faire les choses parce que bah, autour de moi, il y avait que des jeunes en situation de handicap visuel. Donc, là, peut-être ce contexte-là, cet environnement-là, ça m'a permis de me dire ok, bon, là il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'autour de toi, ils sont tous comme ça, donc faut le faire. Là, tu vas pas te dire toi, tu vas pas le faire parce que tout le monde le fait. Pourquoi toi, tu le feras pas? Mais du coup, en fait, le problème pour moi, il était surtout quand j'étais avec d'autres personnes en situation de handicap, enfin, du coup, qui ne sont pas en situation de handicap visuel ou en situation de handicap tout court. Quand j'étais dans la cour, à la cantine ou dehors, bah là, je voyais les autres, ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de handicap. Et du coup, moi, je me disais, mais pourquoi toi, tu ne pourrais pas faire ci, tu ne pourrais pas faire ça comme tout le monde? Bah, alors qu'en fait, non, tu ne peux pas parce que bah, tu as un handicap et tu ne peux pas te permettre de tout faire. Parce que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas forcément les moyens de le faire. À l'instant T. Après, tu peux justement rendre les choses accessibles, adaptables à ta manière. Mais à ce moment-là, j'étais très, très loin de tout ça.
Mais c'est pas ta plus grande force, justement, de vouloir faire comme les autres. J'ai l'impression, tu vois, quand je regarde ton parcours, j'ai l'impression que tu as essayé de toujours, en fait, ne pas te réduire à ta différence, en fait. Et de toujours ne pas te mettre de limites.
Bah en fait, c'est inconscient, je pense, parce qu'en fait, j'ai pas accepté mon handicap jusqu'à la faculté. Et je pense que même un peu aujourd'hui, pour certaines choses, c'est encore un peu délicat. Mais comme tu dis, aujourd'hui, et même inconsciemment, depuis la primaire, je pense que c'est une force. Parce que le fait de vouloir faire les choses comme tout le monde, même si j'avais pas forcément les capacités, on va dire les moyens, les techniques, les méthodes, les adaptations, même à l'époque, et aujourd'hui, oui, c'est une force. Aujourd'hui, en fait, justement, moi, je parle pas de handicap directement, je parle de différence. Parce qu'en fait, on est tous différents. On a tous des particularités, des spécificités, un handicap ou autre chose qui peut nous montrer que l'on est tous différents de l'un et l'autre. Même dans la pièce, on est tous différents ici. Même si vous n'avez pas de handicap, j'imagine, en tout cas pas visible. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis, oui, moi je suis différent. Et du coup, ça sera ma force. Et en plus d'être en situation de handicap, et du coup, visuel pour ma part, je suis en plus de banlieue, de Sarcelles. Donc, bon, banlieue plus handicap, le combo, il est compliqué. Hein.
C'est un sujet important, psychologiquement, moralement, l'acceptation de son handicap. C'est, tu vois, toi qui peut-être connais ou as certaines amitiés avec des personnes qui ont des handicaps visibles ou invisibles, ou même juste simplement des différences, comme tu l'as dit. L'acceptation de ces différences, c'est un sujet qui est important selon toi ?
Bah en fait, déjà, il faut accepter sa différence. C'est le premier travail, en fait. Parce que si tu n'acceptes pas ta différence, c'est que tu ne connais pas ce que tu as, en fait. Ta différence, tu ne la connais pas, tu ne la maîtrises pas. Donc, dans un premier temps, le travail, il consiste à bien comprendre, à savoir sa différence. Et du coup, par conséquence, qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Et quand ce n'est pas possible de faire, il faut se dire comment, moi, je peux rendre ça possible. Même s'il n'existe pas forcément des voies, on va dire, réalistes, et on peut dire même légales, dans le sens où c'est connu, reconnu. Et du coup, là, on fait quoi ? Là, il faut se poser la question, moi, j'ai envie de faire ça. Du coup, je vais mettre mes propres moyens, utiliser mes propres techniques, faire comme moi je le sens, comme moi je pense que c'est possible, et je vais y arriver. Comme je dis souvent, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Mmh. On est d'accord ? Mais à Rome, tout le monde ne va pas de la même manière. Certains en voiture, d'autres en avion, d'autres à pied, d'autres en vélo, d'autres en moto, en trottinette électrique. Enfin voilà, il y a 10 000 façons de venir à Rome. Mais au final, on arrive tous à Rome. Donc c'est ça qui compte en fait. Donc si moi, admettons, je veux être au pif, allez, je veux être, j'ai pas de métier comme ça, boulanger. J'ai un handicap, X, Y. Ben, je vais me dire, ok, mon rêve c'est d'être boulanger, qu'est-ce que je vais faire pour que pour moi, ça soit possible. Et c'est ça qu'il faut dire en fait. Il ne faut pas se dire, oh purée, moi je veux être boulanger, moi j'ai un handicap, j'ai une différence, et du coup je ne peux pas le faire. Mais qui te l'a dit que tu ne pouvais pas le faire en fait ? Personne en fait. Les gens ils vont te le dire, la société va le penser, tout le monde va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Mais toi, il faut que tu te connaisses. Et justement, c'est là que l'intervient l'estime de soi en fait. Si tu te connais, tu te juges à la bonne valeur, tu te sens capable de faire les choses, tu peux y arriver en fait. Il ne faut pas lâcher les choses. Quand tu te dis que quand tu peux, tu veux, et moi je dis souvent qu'à chaque problème, il y a une solution, c'est qu'il y a une solution. Tu peux mettre du temps à trouver la solution, mais il y en a forcément une, et il faut trouver la bonne, c'est tout en fait.
Ouais, bien sûr. J'entends beaucoup ce que tu dis effectivement sur un peu le formatage que peut avoir la société. Dès qu'on ne rentre pas dans une case, la première réponse souvent, c'est de dire que ce n'est pas possible. On a plus tendance à recommander aux gens d'abandonner plutôt que d'essayer de trouver des solutions annexes. Ça, c'est très vrai, ouais, bien sûr. On t'a beaucoup dit d'abandonner, toi, dans ta vie ?
On ne m'a pas forcément dit d'abandonner, mais on m'a forcément dit et beaucoup dit que ça, ce n'était pas possible, que ça, je ne pourrais pas le faire, que ça, ce n'est pas pour moi. En fait, c'est subtil, on va dire. Ce n'est pas direct. Mais c'est déguisé. Et du coup, moi, avant, c'est pour ça que je disais que j'acceptais pas mon handicap, bah, j'écoutais beaucoup ce qu'on me disait. Et du coup, je laissais les autres décider à ma place.
Bien sûr.
Parce que je me disais, au fond de moi, bah, ils savent mieux que moi, ils connaissent mieux, alors que les nids, en fait. Et ils savent rien du tout. Ils sont pas dans ma tête. Ils sont pas dans mon corps. Ils vivent pas ce que moi, je vis. Même si quelqu'un a le même handicap que toi, même si quelqu'un vit la même chose que toi, elle n'est pas à ta place. C'est ça qu'il faut se dire. Peu importe ta situation sociale, ta situation économique, ta situation, on va dire, familiale ou ta différence à cause d'un handicap, d'une maladie, personne ne peut décider à ta place. Personne. T'es acteur de ta vie. Donc, en tant qu'acteur, c'est toi qui gères les choses. Personne ne va te dire « fais ci, fais ça ». On peut te donner des conseils, on peut te donner des idées, on peut t'orienter, mais on ne peut pas te décider à ta place. C'est toi tu dois faire les choses. C'est pas parce que t'as un handicap, t'as une différence, que tu viens de la banlieue ou que tu viens de je sais pas où, et que admettons tu viens de Sarcelles et quelqu'un vient de Paris, mais en quoi le mec de Paris va te dire fais ci fais ça en fait? Parce qu'il est de Paris et du coup il est supposé supérieur à toi, mais de quelle façon en fait? À quel moment on peut te dire ça? On reste tous des humains avant tout, c'est tout en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, On est tous des humains avant tout. Il faut effacer les différences. Ils existent, on ne va pas se dire le contraire. Mais avant tout, chacun doit se dire « Je suis le maître de ma vie. Je suis le maître de ma situation. S'il m'arrive quelque chose, c'est à cause de moi. Et si je réussis, c'est grâce à moi. » C'est tout. Les autres, ils sont là autour de nous. Ils ne sont pas là à notre place.
Mais écoute, c'est des paroles super inspirantes, tu vois, que tu dis là, et je pense que ça s'adapte dans beaucoup de cas et à beaucoup de personnalités. Donc merci pour ce partage et ce ressenti d'expérience. Toi, c'était quoi tes rêves après avoir voulu être joueur de foot? C'était quoi tes rêves de sport, tes rêves de professionnel? Qu'est-ce que tu avais envie d'accomplir?
Mes rêves dans le sport, je dirais que c'est d'être sur le plan sportif, sur le terrain, c'est d'être champion du monde ou champion paralympique. Je pense, ça serait pas mal. C'est si foot ou autre discipline, mais aujourd'hui ce serait le si foot. En dehors, moi je suis journaliste, du coup, je me disais animer une très grande émission sur une grande chaîne française, on va dire.
Ok.
On va pas donner de nom parce que ça fait préférentisme. Mais voilà, on va pas donner de nom. Mais une grande chaîne française, une grande émission, ce serait super bien, autour de tout ce qui est social, handicap et sport, bien évidemment. Ça reste mon secteur. Faut pas s'éparpiller non plus. Ouais, ça serait mes rêves. Et aujourd'hui, j'ai d'autres rêves. Par exemple, justement, à travers mon projet et d'autres choses que je mets en place, ça serait du coup effacer les différences, faire en sorte que les jeunes dans les quartiers prioritaires et les quartiers populaires se disent que tout est possible, qu'ils peuvent y arriver. Justement, c'est parce que on est en banlieue qu'on doit être en décrochage scolaire, qu'on doit finir dans des mauvaises directions, que l'on ne peut pas y arriver. Non. Tout est possible. Et justement, la banlieue doit être une force, un atout pour y arriver. Il ne faut pas utiliser ça à mauvais escient. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Mais voilà, il faut utiliser ça à bon escient. Et il faut utiliser les choses correctement pour que ce soit un avantage pour nous et pour que nous, on avance et on y arrive. Ça ne doit pas être un obstacle. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Mais on doit montrer justement que ce n'est pas le cas. On doit montrer que la banlieue, ça fait partie de la société, du pays. On utilise la banlieue pour certaines choses quand il faut le faire, mais pas tout le temps. Mais justement, il y a tellement de pépites, il y a tellement de choses incroyables dans la banlieue, notamment du handicap. Et tout ça, il faut le promouvoir.
Y a une certaine forme de solidarité, ouais, qui existe, qui est très profonde, qui est très ancrée, ouais.
Totalement, c'est qui est bien.
Je reviens un petit peu sur le sport.
Ouais.
Est-ce que toi, tu avais des idoles plus jeunes? Est-ce que, du coup, si tu vas avoir des idoles dans le CC Foot, est-ce que tu vas aller chercher tes idoles parmi les valides, tu vois? Est-ce que, c'est quoi tes rôles modèles, en fait? Qu'est-ce qui te fait rêver? Ou est-ce qu'il y a des gens que tu as envie de regarder et de dire, tiens, j'ai envie de... Eux, ils me montrent la voie et est-ce que je peux les faire, essayer de faire comme eux le plus possible?
Quand j'étais petit, moi, mes modèles, c'était Anelka, Trezeguet, Pauleta, dans le foot. Je sais pas pourquoi, parce que les clubs, et j'aimais bien un peu leur style de jeu. Et du coup, avec le temps, je sais que ce sont des bonnes personnes aussi. J'aime bien ce qu'ils font. Ils sont discrets, ils font des choses dans leur coin, mais des choses intéressantes. Donc j'aime bien ce côté-là aussi. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de modèle ou d'exemple ou d'inspiration dans le sport, on va dire. Dans d'autres secteurs, plus global, mais dans le sport, pas forcément. Après, si je dis Mbappé, des joueurs de l'équipe de France, forcément, ça va parler à tout le monde. Mais ouais, je dirais quand j'étais petit, mais aujourd'hui, ouais, j'ai d'autres références.
Ok. Quand t'es ado, tu peux faire de la compète en CC Foot?
Non. Aujourd'hui, t'as pas le droit. Faut avoir 16 ans minimum.
Ok, c'est à 16 ans qu'on peut commencer. Imaginons, je suis papa et demain, ma petite fille ou mon petit garçon, il a un handicap visuel. Où est-ce que je peux l'inscrire au CC Foot? Comment est-ce que je peux lui faire faire du CC Foot?
Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, déjà en France, on a une dizaine d'équipes. C'est pas énorme. Et en plus, géographiquement, c'est mal placé. Il faut le dire quand même. Parce que déjà, en Ile-de-France, on a 4 clubs.
D'accord.
Dans le 93.
Sur les 10.
Ouais, c'est ça. Dans le 93, 94, à Paris. Et il manque un autre. Et l'autre, non, c'est pas à Paris, c'est juste au-dessus. C'est dans le 60. Donc, bon, c'est collé. Après, on a un club dans le nord. Donc, en fait, entre Paris et dans le nord, on a 5 clubs déjà. Donc, géographiquement, c'est pas incroyable. Et ben, par exemple, la première chose qu'il faut faire, et pour le CC Foot ou même pour toutes les.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Discipline handisport et même parasport en général, c'est de contacter son comité départemental handisport ou sport adapté.
D'accord.
Parce que eux, ils ont tous les clubs. Ils ont le répertoire. Donc eux, ils peuvent orienter du mieux qu'ils peuvent. S'ils ont des clubs dans le département, ils peuvent le faire. S'ils n'en ont pas, bah, du coup, ils peuvent relier vers d'autres, avoir l'information et vous la transmettre. Donc, il faut passer par ce billet-là, en fait. Il faut passer par le comité départemental handisport. Ils ont tout ce qu'il faut, tous les éléments, toutes les informations, tous les contacts.
Okay.
Ça doit être le premier interlocuteur pour une personne qui veut faire du handisport, enfant ou pas enfant, d'ailleurs.
Toi, c'est ce que tu as fait ?
Moi, je n'ai pas du tout fait comme ça. Moi, je ne fais rien comme les autres. C'est mon côté original. Non, moi, c'est du bouche à oreille.
Okay.
Moi, c'est du bouche à oreille parce que je connaissais un des joueurs qui m'a dit qu'il y avait du CC Foot, etc. dans son club. Et du coup, j'ai été essayer et ça s'est fait comme ça.
Ok. Tu te souviens de ton premier match officiel ?
Oui, c'était contre Toulouse, avec justement une équipe qui est dans le 94. Et en fait, justement, là, ça rentre un peu le côté social, comme je dis. Parce qu'avant le match, moi, je n'étais pas prévu pour jouer. Moi, j'étais là en tant que remplaçant, voilà, tranquille. Et en fait, du coup, là, on me dit, bon, il faut que tu joues le prochain match parce que c'est un peu compliqué. Je dis bon, le stress monte, la panique, etc. Et du coup, il y a le guide de mon équipe. Le guide, c'est celui qui est face au but adverse pour nous indiquer où sont les cages et nous, où on est situé sur le terrain. Il nous dit, attention, tu as 12 mètres, il y a deux joueurs devant toi. Tu as à gauche, à 4 mètres, il y a deux joueurs. Tu as 10 mètres, plein d'axes, tu peux tirer. Il nous donne toutes les informations que nous, on n'a pas de manière visuelle, on va dire.
Donc, il y a une personne qui est en dehors du terrain.
Derrière les buts adverses.
Qui est derrière les buts adverses.
C'est ça. Et qui nous donne les informations comme un GPS, on va dire.
C'est quoi son nom ? Le nom
de son... guide. Le
D'accord.
guide. C'est parce qu'il est là pour nous guider. Du coup, on dit guide. Bon, c'est pas compliqué la vie.
Ok.
Donc, du coup,
il faut qu'il ait une voix forte, non ? Il faut
C'est mieux. Parce qu'il faut que sa voix, elle arrive jusqu'aux 12 mètres.
Ouais.
Donc, c'est mieux quand même qu'il ait une petite voix qui porte. Parce que sinon, si on l'entend pas, ça serait un peu embêtant.
Et son rôle, il est hyper important, en fait.
Après, nous, on a nos automatismes sur le terrain.
Bien sûr.
On sait plus ou moins où on est situé, etc. Mais par exemple, si là, on est à la base, on est à 10 mètres et qu'il y a un défenseur à 4 mètres, et ça, on va peut-être pas forcément le ressentir. On n'a peut-être pas cette information-là. Donc lui, il peut nous dire ça. Il peut nous dire, décale-toi de deux pas et tu peux enchaîner avec la frappe. Enfin, il peut nous dire plein d'informations que nous, on n'a peut-être pas à l'instant T, que lui, il peut voir.
Okay.
Et du coup, il nous transmet ça, en fait.
Et lui, il parle que à celui qui a le ballon ?
En fait, lui, il a le droit de parler à ceux qui sont dans ses 12 mètres à lui en attaque. Parce que dans les 12 premiers mètres, c'est le gardien qui guide les défenseurs, qui replace, qui oriente, qui dirige les défenseurs.
D'accord.
Après, au milieu du terrain, tu as l'entraîneur sur le côté du terrain, qui
okay.
nous guide sur les 12 mètres à peu près sur la ligne médiane, autour de ça, on va dire.
Ok.
Et du coup, les 12 derniers mètres, c'est occupé par le guide qui est là pour nous indiquer, pour nous orienter, pour nous donner les informations pour qu'on puisse cadrer et marquer, ça serait mieux.
Est-ce qu'il y a des mauvais guides ?
Bien sûr qu'il y a des mauvais guides. Mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça parce qu'en fait, chaque joueur a besoin d'informations différentes dans la même équipe.
Oui.
Moi, admettons, je veux qu'on me dise ça, ça, ça. Peut-être mon partenaire, il ne veut pas tout ça comme information. Lui, il veut peut-être d'autres informations. Lui, il ne veut pas qu'on lui dise t'as 12 mètres, t'as 15 mètres, machin et tout. Donc en fait, on a tous besoin d'informations différentes. Donc en fait, c'est un guide presque personnalisé à chaque joueur. Du coup, ça, il ne faut pas qu'il se trompe non plus le guide. Après, il peut se tromper au match, ça arrive et tout. Hein. Mais voilà. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, on n'a pas tous les mêmes sensations. Donc en fait, c'est particulier. Donc ça permet de discuter, d'échanger. C'est là qu'interviennent les entraînements, les répétitions, l'habitude. C'est comme sur le terrain, en fait, entre nous. Entre joueurs, bah, c'est à force de s'entraîner qu'on a les habitudes. Bah, avec le guide, c'est pareil.
Okay.
Si on arrive en compétition et c'est la première fois qu'il nous guide, ça peut être bien. Mais bon, il y a très peu de chances que ce soit excellemment bien non plus. Et voilà, ouais. Ça dépend.
Et du coup, il y a un guide remplaçant ou pas ? Si le guide, il se blesse la voix
Normalement, non. Mais après, on a forcément des gens dans le staff qui peuvent le remplacer, on va dire.
D'accord, ok.
C'est préparé quand même, au cas où. Comme le gardien remplaçant, comme les joueurs remplaçants. Voilà. S'il y a un problème, normalement, on peut le remplacer.
Ok. Donc, vous devez beaucoup parler en dehors du terrain pour apprendre pour lui communiquer les informations dont vous avez besoin, sur comment est-ce que vous aimeriez qu'il communique avec vous, non ?
Oui, forcément. Déjà que sur le terrain, nous, entre joueurs, l'écoute et la communication, ce sont deux détails très, très importants pour nous. Et du coup, avec le guide, encore plus. Parce que là, c'est lui qui doit nous communiquer des informations. Donc, du coup, nous, on doit lui transmettre les informations, les explications que nous, on a besoin en fonction de où on se situe, de où on est, de comment on est face au but ou derrière les buts, une position, de plein de détails. Et par rapport à nous, notre façon de se déplacer aussi. Parce que la façon de dribbler avec le ballon, de passer, de se replacer, d'être avec les autres, parce qu'on change de position. Même si de base, admettons, je suis à droite, je peux être à gauche aussi pour compenser. Donc en fait, on a tous ces repères-là. Donc du coup, le guide, il doit s'adapter à nous et aussi au jeu.
Bien sûr.
Du coup, par rapport aux autres aussi. Parce qu'il peut nous dire, ouais, t'as 2 mètres, attends, décale la balle à droite, voilà, parce qu'il est là, machin et tout. Il peut nous donner tous les conseils que lui, qui peut lui paraître, on va dire, être important, essentiel au jeu, parce que lui, son outil, c'est que nous, on marque un but.
Ouais.
Il est là pour ça. Donc, il doit tout faire dans ce sens-là. Et après, nous, on peut l'écouter ou pas écouter, ça arrive aussi, mais il est là pour ça.
Ok, exceptionnel. Écoute, la prochaine fois que j'irai voir un match, je ferai très attention. Effectivement, à tendre les oreilles et à bien écouter ce qu'il peut se dire, parce que je suis très curieux de comment la communication elle se passe, tu vois. C'est mon biais de podcasteur, tu vois. J'aime bien parler, j'aime bien écouter, donc je suis très curieux de savoir comment est-ce que vous faites.
Il faut venir à un match.
Bien sûr, j'attends l'invitation.
Pas de souci, ça sera fait.
Est-ce qu'il y a beaucoup de fautes au CC Foot ?
Bien sûr, ça reste physique.
Vous mettez des coups ?
Volontaire ou involontaire, ça dépend. Mais bon, on va dire que c'est souvent involontaire, bien évidemment. Parce que jamais volontaire. Mais oui, bien sûr qu'il y a des fautes. Moi, pour mon premier match, j'ai saigné du nez. Je me suis presque cassé le nez.
Pour ton premier match ?
Ouais.
Ok.
Donc ça arrive. Donc oui.
Ok. Quelle émotion ça te fait la première fois qu'on te dit que tu vas jouer en équipe de France ?
Après, déjà, quand tu joues tout court, quand tu rentres sur le terrain, moi, c'est mon premier match, du coup. Qui m'a rendu très fier, on va dire, parce que tu dis que tu as abouti à quelque chose, en fait.
Ouais.
Parce que tu dis que là, tu t'entraînes, et même ton premier match tout court de CC Foot, même le premier match amical, là, je ne me rappelle pas, mais le premier match même amical, en fait, avec ton club ou avec ce que tu veux, c'est une avancée. C'est une avancée. Parce que là, tu dis que tu ne t'entraînes pas pour rien, tu ne fais pas toute cette souffrance pour rien. Tu travailles, tu t'améliores, tu répètes, et ça te permet justement de disputer des matchs, de disputer des compétitions, d'aller peut-être aux Jeux Paralympiques, de remporter la Coupe du Monde. Voilà. Et des objectifs au fond, dans le CC Foot ou même dans d'autres disciplines, peu importe. En fait, il y a plein d'étapes différentes et petit à petit, tu y arrives. Parce que c'est ça qui permet l'avantage, on va dire, du sport co, c'est que toi, tu apportes ta pierre à l'édifice. Et ça te permet justement de te surpasser et tu as le côté social. Parce que justement, tu es avec les autres. T'es pas que là pour toi. Il faut que tu communiques avec les autres. Il faut que tu échanges avec les autres. Et là, forcément, le lien social rentre en jeu. La cohésion sociale. On parle beaucoup de cohésion sociale. C'est une réalité. Surtout au CC Foot. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas d'équipe. Hein. C'est simple.
Ouais.
Donc, en fait, c'est pour tout ça que t'es fier, en fait. Et t'es heureux parce que tu dis, ouais, là, c'est la réalité. C'est un match. Faut jouer. Faut se donner à fond. Et moi, c'est ce que je disais. Pour mon premier match, j'étais pas confiant, j'étais stressé. Mais juste le fait de discuter avec mon guide, il m'a rassuré. Et là, encore une fois, en fait, c'est le côté social. Avant les performances, avant, on va dire, de ce qu'on peut faire sur le terrain, en tant que sportif, athlète, etc., il y a tout ce qu'on peut faire pour les autres. Parce que les autres, ce sont tous des bénévoles. Hein. Le guide, le gardien, l'entraîneur, etc. Même le staff technique, le staff médical, machin, tout le monde. Ce sont tous des bénévoles dans les différents clubs. Donc du coup, en fait, on est là pour eux. Parce que déjà, on s'entraîne grâce à eux. Et nous, la meilleure réponse qu'on peut leur apporter, c'est d'être bon sur le terrain. On ne peut pas faire autre chose. Bah si, après, on peut discuter avec eux, on peut échanger, etc. Mais l'aboutissement de notre travail et de leur travail, et la récompense qu'on peut leur apporter, c'est d'être bon sur le terrain, nous, en tant que sportifs. Et justement, encore une fois, c'est le social qui remporte avant tout.
C'est quoi le profil des gens qui sont bénévoles dans le monde du sessifoot?
Je pense que c'est pareil dans le monde du handicap en général. Pas que du handisport ou du parasport, mais du handicap en général. Ce sont des personnes qui ont une sensibilité, déjà, qui sont curieux. Et souvent, ce sont des gens qui ont entendu parler du handicap d'une manière ou d'une autre, ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est en situation de handicap. Ça peut être la famille, des amis, ou voilà, quelqu'un qu'ils ont connu, qui est en situation de handicap, ou ils ont entendu parler de ça. À la télé, à la radio, un article, un musée ou autre chose. Il y a forcément le handicap qui est passé par là dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Je ne connais pas, moi personnellement, après ça existe, hein, forcément, je ne vais pas faire de généralité, mais des gens qui ne connaissent pas le handicap du tout et qui n'en ont rien à faire, travaillent dans le handicap. Parce que je dis que c'est travailler, mine de rien, parce que les bénévoles et les volontaires, comme on appelle aujourd'hui, ils travaillent beaucoup plus que des salariés, peut-être, parfois. Et du coup, il faut avoir connu le handicap, avoir, en tout cas, être au courant de ce que c'est le handicap.
Il doit y en avoir beaucoup. Hein. J'avais lu quelque part qu'il y avait entre 10 et 11 millions de personnes touchées par des handicaps visibles ou invisibles en France.
C'est pratiquement un sixième de la population.
Ouais.
Après, en fait, c'est encore un problème de stats. Parce que, justement, je disais ça dans la table ronde, il y a beaucoup de stats. Mais les stats ne prennent pas en compte tout sur le terrain. C'est ça le problème. Par exemple, un exemple que je peux donner tout bêtement, la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, et d'autres structures ne vont pas forcément valider tel handicap ou tel handicap, alors que c'est un handicap. Pour X, Y raison. Ou une maladie qui va faire en sorte qu'une personne, en tout cas, a des difficultés dans son quotidien. Elle peut être très, très handicapée, mais c'est une maladie qui n'est pas forcément reconnue par les différentes structures. Donc, en fait, oui, il y a un sixième de personnes en situation de handicap, en tout cas, connues, on va dire ça comme ça, mais pour moi, il y en a beaucoup plus.
Ok. Parce que c'est un souci de classification.
De classification, de reconnaissance, et aussi, du coup, d'administratif, forcément.
Ouais, bien sûr, je comprends. Je reviens sur le terrain, du coup. Il y a un arbitre ?
Même deux.
Deux arbitres ?
Ouais, deux arbitres.
Ils surveillent quoi ?
Tout. Tout ce qui se passe sur le terrain.
Pourquoi ils sont deux ?
Bonne question, pourquoi ils sont deux ? Parce que je pense que s'il y en a un qui ne voit pas une action, du coup l'autre peut voir, j'imagine.
Ils sont voyants.
Oui, les deux sont voyants. Et en cas de litige, au cas où, comme ça il y en a deux, pour ne pas avoir une seule voix qui décide de tout. Donc voilà. Et okay. Après, du coup, c'est mieux pour ça, je pense.
Ok. Les gardiens aussi ?
Gardien, du coup, ouais, le gardien, il est voyant. Le gardien, pourquoi il est voyant ? C'est une réponse toute simple. Parce que la balle au sessifoot, elle est sonore. Oui, logique, sinon on ne pourrait pas jouer. Mais du coup, en fait, quand la balle elle est en l'air, on ne l'entend pas voler.
D'accord.
Et du coup, si on tire en l'air, on va faire une lucarne. Si le gardien ne voit pas, il prend le but sûr.
Okay.
Ou en tout cas, même si le gardien ne voit pas bien, il se cogne. Parce qu'il y a les poteaux. Ou il se cogne avec un joueur. Ou il se prend la balle sur la tête. Donc en fait, il y a trop de risques. Donc même s'il est voyant, déjà, il se blesse, il peut se cogner avec nous. Donc s'il n'est pas voyant, ça peut être encore plus dramatique.
Ouais, ok, j'imagine. Il a des contraintes particulières de jeu ?
Oui, lui il n'a que 1 mètre pour sortir de sa cage. D'accord. Zone elle est de 1 mètre. Et sinon c'est tout.
Ok. Ils font quelle taille les buts ?
C'est comme les gardiens. Les cages de handball.
De handball, donc futsal aussi.
C'est ça.
Ok.
C'est similaire.
Un très bon gardien, ça change la donne du coup, j'imagine ?
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Si on a un gardien par exemple qui est super rapide, qui est vif, qui voit bien le jeu et qui connaît du coup les adversaires et qui arrête des ballons, oui c'est sûr que c'est comme le foot classique. Hein. On a plus de chances de gagner un match si on ne prend pas de but.
Ouais, bien
sûr. Donc si on a un gardien qui est performant, s'il nous faut juste marquer un but, ce sera plus facile, c'est sûr.
Bien sûr, ouais. Mais je me demande s'il y avait un gros écart de niveau, tu vois.
Entre les équipes, je veux dire ?
Entre les gardiens.
Oui, je pense qu'il y en a forcément. Oui, okay. Il y en a forcément, forcément.
T'as une bête noire, toi ?
Après, il y a une Mérignac. Le club de Mérignac, c'est le meilleur club en France depuis presque toujours, je pense. En tout cas, les 10-15 dernières années, c'est la meilleure équipe. Même si aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui montent, le RC Lens, Bondy, Saint-Mandé, Précy-sur-Oise, et même Toulouse, etc. Mais Mérignac et Bordeaux, enfin c'est la même équipe, mais voilà, eux ils sont bons depuis quelques années et gagnent pas mal de titres.
Ok, ok, ok. Bah écoute, merci pour cette précision. Et c'est quoi le palmarès de l'équipe de France ?
L'équipe de France est 3 fois championne d'Europe.
Waouh !
Et une médaille paralympique, une médaille d'argent en 2012.
C'est un beau palmarès, ça donne envie.
Maintenant il manque le titre paralympique et un podium au niveau mondial.
Bien sûr. Et on peut jouer jusqu'à quel âge ?
Il n'y a pas d'âge. Il
n'y a pas de limite d'âge ?
Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge.
C'est qui le doyen de l'équipe, du coup ?
Maintenant, je ne sais pas qui est le doyen, parce qu'ils sont plusieurs à avoir la quarantaine, ou presque. Donc, je ne sais pas qui est le doyen. Bonne question.
Ok. Bon, je trouverai... On retrouvera l'info et...
Ouais,
et
parce qu'ils sont tous à peu près le même âge, à 1 an, 2 ans près. Okay. Donc, bon.
C'est toi le plus jeune, en fait ?
Bah, après... Il y a encore même d'autres joueurs, hein, même en championnat de France. Il y en a beaucoup qui commencent là, qui ont la vingtaine, même un peu moins d'ailleurs pour certains. Donc, il y a même l'équipe de France Espoir, c'est jusqu'à 23 ans du coup, et il y en a pas mal des joueurs. Donc, si c'est faux, t'as de l'avenir normalement, ça devrait le faire.
Super, toi tu es confiant ?
Je sais pas, s'il faut être confiant, il faut toujours être confiant de toute façon dans la vie, il faut toujours être optimiste. Donc après, tout se passera dans les façons de faire.
Ok, bon, en tout cas ça se développe.
Oui, 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 ça se développe. Et justement, les Jeux Paralympiques, ça sera une grande vitrine. Et j'espère que l'héritage sera positif et que ça va bien se passer. Il faut bien l'utiliser, en fait.
Ok. Je passe un petit peu au sujet de la journée. Effectivement, aujourd'hui, du coup, c'était les tables rondes organisées par Expertise France, qui est une filiale de l'AFD. Toi, tu as monté plusieurs projets associatifs et caritatifs. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ces projets et en quoi ils consistent ?
Bah, actuellement, mon projet phare, ça s'appelle l'Urban Ball. L'Urban et Ball en anglais, il n'y a pas de piège pour ceux qui sont bilingues. Du coup, je ne vais pas y plaire. Et du coup, en fait, ce projet, c'est un projet phare qui va se passer dans les QPV, c'est-à-dire les quartiers politiques prioritaires de la ville. Et pourquoi ça ? Bah, parce que, comme on a évoqué dans le podcast, moi, je suis en situation de handicap visuel et je suis de Sarcelles, c'est-à-dire 95, qui veut dire banlieue. Du coup, moi, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre du public qui est invisible, dont on ne parle pas, dont qui se met des barrières, dont qui ne veulent pas faire ci, qui ne veulent pas faire ça parce qu'ils sont de banlieue et qui se mettent des barrières tout seuls parfois et aussi d'autres fois d'autres barrières qu'on leur met aussi. Et du coup, moi, l'objectif, c'est d'aller dans ces coins-là déjà pour rassembler les peuples, pour montrer que l'on peut y arriver tout en sensibilisant au handicap, c'est la base, au handisport. Parce que du coup, il y a le cécifoot et d'autres disciplines. On va les sensibiliser au handicap. Et par ce biais-là, montrer que c'est possible. Du coup, le champ des possibles, la tolérance, la résilience, le dépassement de soi. Leur montrer, par exemple, tout bêtement, qu'au cécifoot, par exemple, comme tu l'as dit très bien pendant le podcast et comment on a pu l'expliquer, la communication, l'écoute, que sans les autres, on n'y est rien en fait. Et du coup... Le lien social, c'est très important. Et du coup, c'est sur tout ça que j'appuie, du coup, en allant dans ces quartiers-là, dans ces zones-là, parce que moi, je viens de là-bas. Et parallèlement, avec mon partenaire Kunto, Hicham Ousseini, ils font une application pour le sport et la nutrition inclusif
pour
tout le monde. Et du coup, parallèlement, c'est de montrer dans ce même projet, en même temps, que tout le monde peut faire du sport. Tout est possible d'adapter selon son handicap, sa maladie, sa spécificité. Et du coup, de la nutrition aussi. Parce que bon, banlieue, ce n'est pas l'endroit où on mange très bien malheureusement, avec beaucoup de fast-food, etc. Du coup, bah, leur donner des conseils, des astuces, les orienter pour bien manger et correctement bah, pour sa santé déjà. Parce que bien manger, c'est avoir une bonne santé. Et du coup, si je dois résumer en quelques mots ce projet, bah, c'est handicap. Éducation, jeunesse, sport, nutrition.
Ok. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce qu'on peut vous filer un petit coup de main s'il y a des gens qui ont envie de s'engager à vos côtés ?
Bah, si sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Instagram et LinkedIn, surtout.
Ok.
On pourra mettre les liens, mais si je dois utiliser mon prénom et mon nom, c'est Viknesh, V-I-K-N-E-S-H, et mon nom de famille, A-N-B-A-R-A-S-A-N. Ce sont la même chose sur LinkedIn, Insta et tous les réseaux. c'est mon prénom et mon nom.
T'inquiète pas, on fera nos devoirs, on mettra tous les liens
Parfait, merci,
description pour que les gens puissent cliquer, aller voir. Et t'as bien fait des plaies, effectivement, pour qui c'est plus simple.
Toujours mieux.
Exactement, ouais, t'as bien raison. C'est quoi l'ambition que t'as envie de porter, justement, à travers ce projet? À quel moment tu pourras te dire, ça y est, j'ai rempli la mission que je voulais, de ce pourquoi je l'ai créé?
Quand l'impact du cœur sera positif. Ce que je veux dire par là, moi je travaille dans la mixité sociale et le handicap, en partant du handicap. L'objectif, c'est de faire comprendre aux gens des quartiers politiques prioritaires de la ville et aux personnes en situation de handicap, et parfois les deux. Ben moi, par exemple, la preuve, je suis né à Sarcelles et je suis en situation de handicap. C'est de faire comprendre que le lien social, c'est important. Le besoin de l'autre, c'est essentiel. Et que l'on peut y arriver. C'est pas parce qu'on a un handicap, c'est pas parce qu'on est de banlieue, c'est pas parce qu'on a une différence que l'on peut pas y arriver. Bien au contraire. Certes, ça peut être, on va dire, une défaillance au départ, à cause de nombreuses raisons, la société, les préjugés, les clichés, etc. Mais on peut y arriver. Il faut que l'on transforme cette chose en une force, que l'on comprenne que c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, transformer ça en une force, utiliser ça à notre avantage et on peut y arriver. Il faut que l'on soit acteur de sa propre vie. Pour ça, il faut se dire que quand on veut, on peut, et qu'à chaque problème, il y a une solution. On doit se guider avec des leitmotifs propres à chacun. Moi, les miens, ce sont les deux que j'ai dit précédemment. Et c'est comme ça qu'on avance. Et quand on peut se dire que si j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, malgré ma situation, malgré mon état, malgré ma différence, je peux y arriver, moi, je suis content.
Ok, super. Merci beaucoup pour ça, en tout cas. Et j'espère que Extraterrien te donnera un petit peu de visibilité et que ça fera grandir l'asso et grandir le projet. J'en doute pas une seule seconde. Tu vois, là aujourd'hui on est dans les locaux de Expertise France. Comment est-ce que eux ils peuvent t'accompagner dans ton projet et comment est-ce que tu les as connus par exemple?
Expertise France, je les connaissais de nom parce qu'on peut pas faire autrement, forcément on les connaît. Donc je connaissais très bien de nom et après du coup en fait on m'a mis en contact pour les différentes tables rondes et pour laquelle moi j'ai participé. On m'a mis en contact avec des responsables de l'agence Expertise France et ça s'est fait comme ça. Et comment, moi, ça peut être intéressant pour moi, c'est de collaborer ensemble. Apporter, on va dire, la synergie de chacun pour le travail que chacun peut accomplir. C'est de l'entraide, c'est des collaborations, c'est mutualiser, en fait, ce que fait chacun dans le même but, parce qu'il y a forcément des similitudes, des choses en commun, géographiquement, au niveau social, etc., que l'on peut faire. Et du coup, c'est mettre en commun toutes nos forces quand c'est possible, et j'espère que c'est possible, et ça sera possible, j'espère bien, dans le but de dire et de faire tout ce qu'on en a expliqué durant le podcast.
Yes. Trop bien. Trop bien. J'ai envie de faire, pour terminer l'interview, j'ai un peu envie de faire un petit bond sur ta vie professionnelle. Parce que du coup, t'es journaliste. T'as dit un petit peu que tes sujets de prédilection, effectivement, c'était le sport, l'inclusion. Que ton rêve, c'était effectivement d'animer, pourquoi pas, une émission. Aujourd'hui, c'est quoi les formats que tu crées et comment est-ce que t'en es arrivé là?
Moi, du coup, j'ai fait une licence de communication et un master en journalisme à l'ESJ Paris.
Ouais.
Parce que le sport, c'est toute ma vie, et même dans mes études, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai eu mon master il y a 3 ans et demi de ça, à peu près. Ouais, c'est ça, en 2021. Et du coup, en fait, je suis arrivé pendant la période du Covid. Donc, c'est pas forcément la bonne période. Voilà. Donc, on pouvait faire beaucoup de choses, mais de manière virtuelle, de la maison. Donc, beaucoup de stages, etc., mais de la maison. Donc, c'est pas forcément la meilleure chose. Et du coup, après, moi, j'ai fait pas mal de choses. Des vidéos, avec beaucoup d'interviews que moi j'ai produites avec des sportifs, handisportifs et des gens qui ont pu Bah justement, montrer que c'est possible d'y arriver avec un handicap dans la vie, dans X, Y domaines, beaucoup d'interviews. Et du coup, bah moi, je couvre aussi pas mal d'événements handisport. Mais après, le souci aujourd'hui, c'est que dans le monde de l'emploi, on va dire dans le monde du journalisme, on met en avant l'apparence que les compétences. Donc du coup, le handicap, c'est compliqué. Dans les médias, ça va être compliqué. Bah justement, moi, j'aimerais bien faire changer ça et leur faire comprendre que les compétences, c'est ce qu'il faut privilégier avant tout. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on peut pas avoir de compétences, que l'on n'est pas capable de faire ci, de faire ça. Bien au contraire, on a beaucoup de force et de compétences et de capacités. C'est ce qu'il faut faire comprendre. C'est pas forcément simple. Pourtant, quand je suis dans les événements, je discute avec pas mal de journalistes et je me sens pas inférieur, bien au contraire. Je sais que j'ai les mêmes capacités, les mêmes connaissances, la même culture, peut-être plus ou moins, mais voilà, je me sens pas moins bien qu'eux en fait. Mais du coup, quand on voit justement les médias aujourd'hui, la télé, la radio, le web, etc., bah comme dans beaucoup de domaines, hein, mine de rien, il y a très peu de personnes en situation de handicap. Ouais, très, très peu.
Bien sûr.
Donc ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, ils se disent le handicap, c'est quelque chose de grave, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas compenser. Alors que déjà, il y a des aménagements qui existent, d'une part, pour compenser, pour que les gens en situation de handicap fassent leur travail comme il faut. Et du coup, en fait, un handicap, une différence, c'est pas, je sais pas, ça fait pas peur en fait. Hein. Enfin, si, ça fait peur justement. Mais dans le fond, c'est rien de grave. C'est la vie en fait. Donc, faut essayer de faire ça. Il faut essayer de faire comprendre ça. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément simple au quotidien. Mais c'est l'objectif, c'est l'envie, c'est l'émission, c'est ce qu'il faut, il faut y arriver.
Bien sûr, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. J'arrive aux petites questions de la fin. C'est un peu les questions inspirationnelles pour terminer sur une bonne note, tu vois. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 10 ans, 10 ans en arrière, et que tu aurais envie de lui donner un conseil pour être plus heureux, plus épanoui et réussir peut-être un peu plus vite dans la vie, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Écoute-toi. Parce que moi, j'avais envie de faire plein de choses, de sortir, d'aller voir mes potes, de faire ci, de faire ça. Et en fait, les autres autour de moi, j'avais l'impression, ce que je disais pendant le podcast, qu'ils savaient mieux ce qui était pour moi, en fait. Dans tous les domaines, hein, ça pouvait être tout et n'importe quoi, à l'école, etc. etc. Donc moi, j'écoutais les autres. Logique, parce que souvent, ce sont des grands et on m'a toujours dit qu'il faut écouter les grands. Après, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle non plus. Oui, il faut écouter les grands. Mais il faut juste écouter. Il ne faut pas les laisser décider. Et du coup, si je dois dire à moi, 10 ans avant, écoute-toi et décide-toi, pas les autres. Parce que tu es le meilleur et le mieux placé pour savoir ce qui est bon, pas bon, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, pour toi en fait. C'est la même chose pour les autres. Toi, tu peux conseiller les autres, tu peux donner des idées aux autres. Tu peux partager ton expérience, tu peux dire ce que tu veux, mais tu peux pas dire à l'un ou à l'autre, fais ci, fais ça. Bah non, c'est lui qui va décider, ou elle qui va décider, c'est pas toi.
Ouais,
donc ouais, je dirais écoute-toi et décide-toi en fait.
Ok, bah écoute, c'est une super belle phrase de la fin. La toute dernière question que je pose, c'est un peu, c'est comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro.
Micro olympique.
Exactement, c'est de savoir... quel est le prochain athlète ou la prochaine athlète à qui tu me recommandes de tendre ce micro pour parler effectivement engagement, pour parler sport. Ça peut être une personne que tu connais, ça peut être une personne que tu ne connais pas mais que tu aimerais bien écouter sur un podcast. Quel nom te vient en tête ?
Bah là, par rapport à ce que toi t'as dit, moi je penserais à Paul Richer. Paul Richer en fait c'est un skieur autiste. Et il est multiples fois champion du monde, etc., etc., etc. Et comme tu dis, il n'est pas forcément très, très reconnu. Alors que le mec, il est juste champion du monde, il fait du ski, tu vois, tranquille, hein, il se balade. Il est autiste. Et justement, on ne le connaît pas forcément très bien. Et il fait pas mal de choses. Donc, ça serait peut-être intéressant.
Bah écoute, si t'as les coordonnées, je te les prendrai juste après, dès qu'on aura mis les caméras en pause. Mais ça me ferait hyper plaisir. Tu m'as bien décrit le personnage. Merci beaucoup, Vignesh.
Bah, merci à toi pour l'invitation.
Et t'as passé un bon moment ?
Excellent moment. J'étais juste un peu parfois à la marge, on va dire, parce qu'on parlait de tout ce qui est social et tout. Parce que là, il faut être très efficace. Mais sinon, c'est très bien passé.
Eh bien, écoute, moi, je t'ai trouvé excellent, donc c'est l'essentiel. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt, du coup, Vignesh.
Bah, très vite, et j'espère que les auditeurs vont s'éclater, vont apprendre et vont s'amuser à nous écouter.
Yes, bien sûr. S'ils sont encore là, c'est qu'ils ont aimé, généralement.
C'est pas faux.
Merci à tous, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller le dire à Vignesh, à aller le suivre sur ses réseaux. Encore une fois, je vous mets les liens dans la description de l'épisode, et n'hésitez pas à aller l'encourager, lui faire un petit mot, ça fait toujours très plaisir aux invités. Salut à tous, ciao ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.